Bonjour à tous. L'espace, cette frontière fascinante, ce rêve des étoiles est au cœur de la science-fiction de ses premiers balbutiements. Le voyage vers l'inconnu dans une nef, une soucoupe, un vaisseau spatial est au cœur de son genre, le space opéra. Cet opéra d'espace que nous compose Ophélie Bruno, la petite dernière qui nous balade joyeusement pour quelques gigahertz de plus. Laurent Gennefort, le grand ancien de la tablée.
Tu manques de tentacules quand même pour un grand ancien, si je
peux. Oui, c'est ça.
Qui revient à ses premiers amours avec une édition révisée et une suite à Aumale. Olivier Paquet, le politologue professeur de SF qui invente sa propre culture avec les aventures du Melkin et jusqu'à Bleu Argent. Et Laurent Will, le trublion qui envoie ses des pirates dans l'espace avec les pilleurs d'âme. Mais comment est la vie à bord? Quand est-ce qu'on mange? Et surtout, quand est-ce qu'on arrive? Je commençais par poser la question à Laurent Gennefort. C'est l'œuf ou la poule? Est-ce qu'on conçoit d'abord l'univers ou d'abord le vaisseau?
Tout dépend. D'abord, le vaisseau peut être le monde lui-même. Après tout, Aldis, les vaisseaux mondes, c'est un très très vieux thème. Ça apparaît dès les années 20 en fait. On a déjà des vaisseaux qui sont des lieux de vie. En fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une sorte de revival dans les années 80 du vaisseau monde, en tout cas du vaisseau comme lieu de vie. C'est vraiment parce qu'on commençait à avoir des vraies données venant de l'espace orbital. Et donc on avait un retour d'expérience des équipages des stations spatiales. Et on a vu un peu à quoi ça correspondait. Alors comme il y a eu dans les années 80 un retour à une ESF un peu plus hard science, du coup on a eu des exemples de vaisseaux spatiaux où on pouvait avoir une vision vraiment réaliste de la vie dans l'espace. Et on s'est aperçu d'ailleurs que c'était c'est vraiment un milieu très très hostile quand même. Et en tant qu'auteur de SF, on est quand même obligé de faire l'impasse sur un certain nombre de problèmes si on veut que ça se. Mettre en scène des équipages et des passagers dans un vaisseau. Ça pose quand même des vrais problèmes au niveau réaliste. Donc on a l'habitude de faire un pass après tout sur les problèmes. Donc, voilà.
D'ailleurs, Olivier Paquet, comment est-ce qu'on imagine un vaisseau?
Il y a plusieurs éléments. Enfin, moi, je sais que j'ai réfléchi plutôt par rapport à une fonction ou essayer de voir une logique. Pour le Melkin, par exemple, j'ai voulu imaginer un vaisseau où on vive en apesanteur, parce que l'un des problèmes des vaisseaux spatiaux pour la science-fiction, c'est que on est dans l'espace et qu'on se pose la question, est-ce qu'on s'y balade comme sur une caravelle ou sur un ferry où on est en apesanteur. Donc réfléchir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer la vie quotidienne dans un vaisseau où il n'y a pas de gravité. Et donc, vous avez un petit appart, mais en fait, votre petit appart, mais en fait, vous pouvez être sur le sol, sur le plafond, au milieu, et que vous pouvez vous amuser, le haut, bas, non plus les mêmes notions. Donc, ça, c'est. Et j'essayais à chaque fois de me dire, tout d'un coup, comment on vit, justement, et alors en apesanteur. Ensuite, c'est une logique. Une fois qu'on a décidé, finalement, d'une logique pour construire son vaisseau, ensuite, on regarde les conséquences. Donc on se dit, c'est un vaisseau université, j'ai mes étudiants, et donc ils sont dans ce vaisseau qui s'arrête de temps en temps. Donc les étudiants, les élèves, les profs, ils doivent de temps en temps aller sur les planètes. Or on sait, depuis qu'on envoie des hommes dans l'espace, que les astronautes, cosmonautes, quand ils sont dans l'espace en apesanteur, ils perdent de la masse musculaire. Et donc ils doivent faire beaucoup d'exercices, beaucoup de sport pour maintenir, pour voir ensuite quand ils reviennent sur Terre, pour être à chaise pendant des années ou des mois. Donc on se dit, alors, ce vaisseau, pour qu'il soit crédible, il faut qu'il y ait quand même un espace où il y a une pesanteur pour qu'il puisse faire de l'exercice. Donc on invente à l'intérieur de ce vaisseau une sorte de moyeu, donc il faut imaginer que c'est une sorte de rouleau qui tourne, et en tournant ça crée une pesanteur artificielle. Et donc on a une piste de course. Et puis on se dit, oh, j'ai un grand vaisseau, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais mettre une piscine. Alors, mais sauf que ce vaisseau, il ne fait pas simplement que rester autour d'une planète, il voyage dans l'espace. Donc, quand il voyage dans l'espace, il faut que tous les éléments, il va à un certain pourcentage de la vitesse de la lumière. Donc, quand je suis dans l'espace, si j'ai cette bouteille qui est là et que mon vaisseau il va vite et qu'on est en apesanteur, il y a des choses qui se passent. Donc, il faut que tous les objets, il faut que la piscine soit vidée. Enfin, donc, on commence à imaginer la vie quotidienne de ce vaisseau, comment il faut qu'il gère son accélération, comment comment on voyage avec une accélération qui va poser des problèmes à tous les humains. Alors on essaie d'inventer, on les met dans, on les gélifie, les humains ils prennent une douche, ils mettent ça, un gel qui les met en sustentation, mais il faut qu'il y ait un pilote. Hein. Comment on vit ce pilote, parce qu'il faut quand même piloter le vaisseau, même si on a... Voilà. Une fois qu'on a décidé d'un point, on regarde toutes les conséquences, on s'amuse avec ça. C'est ça qui est amusant. Quand on construit un vaisseau, c'est de trouver le détail et ensuite voir les conséquences. C'est ça qui m'a intéressé à construire des vaisseaux.
Et Ophélie Bruno, les cabines, elles sont mixtes ou pas? Est-ce qu'il y a des femmes dans les vaisseaux spatiaux?
J'espère bien. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Surtout partant du principe que si on est dans un âge de conquête spatiale, on est dans l'avenir. Et si on est dans l'avenir, on peut espérer que certaines règles qui prévalaient à une certaine époque de la marine à voile, à savoir on est dans des équipages 100% masculins, si on met ne serait-ce qu'une femme, ça va mettre le bordel. Si on est dans un équipage suffisamment mixte, eh ben on recrée des conditions similaires à ce que je pourrais appeler la vraie vie. Et donc il n'y a pas de raison que la présence ou pas de femmes soit un problème. Donc... En ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. On retrouve des femmes à tous les niveaux, y compris de commandement. Il n'y a pas d'aménagement particulier. Non, mais même, il n'y a pas besoin d'aménagement particulier. Je pense que quelqu'un qui est entraîné pour être dans l'espace n'a pas besoin d'un traitement de faveur si la condition physique est suffisante. Non, il n'y a aucun problème à ce niveau. J'ai un certain nombre de mes personnages qui sont des femmes et absolument aucun souci par rapport à ça. Et qui dit femme ne dit pas nécessairement que c'est un élément qui va apporter une romance. D'ailleurs, hein, le personnage féminin est un personnage à part entière avec ses propres buts, sa propre raison d'être là, ses propres compétences et son propre parcours à bord.
Hein?
Si, je... Non, mais c'est vrai que ça peut arriver. Ça m'est arrivé de lire des vieux bouquins de SF où quand il y a une femme, elle sert à être un élément romantique. Je pense qu'on peut estimer qu'on a un petit peu dépassé cette époque. De toute façon, chaque écrivain écrit avec ses valeurs qui sont en grande partie corrélées aux valeurs de son époque. Effectivement, de la SF écrite dans les années 50, on avait du mal à imaginer les femmes autrement qu'à des postes subalternes, en intérêt romantique, etc. Et on peut rappeler à ce sujet le rôle important qu'a joué Michelle Nichols via le rôle du lieutenant Uhura dans Star Trek pour populariser l'idée que non seulement une femme, mais même une femme noire pouvait tout à fait avoir sa place parmi...
Non, officier. Elle est officier.
Elle est officier. Elle est certes aux transmissions, elle est un peu en retrait, mais il faut quand même se mettre dans les circonstances de l'époque. On était en 1967, je crois. C'est quand même...
Dites les garçons.
Vous laissez pas les guitares.
Vous laissez pas les Ophélie.
Donc on était dans des circonstances où, dans la mentalité américaine de l'époque, c'était tout à fait révolutionnaire. Même de se dire qu'on la mettait juste aux transmissions. C'est vrai qu'on était loin des années 90 et du capitaine Janeway, mais le lieutenant Uhura a quand même été un premier pas pour montrer que le fait d'avoir des femmes à bord d'un vaisseau était aussi bien un atout que le fait d'avoir un homme au même endroit. C'est vrai que c'était un petit peu l'attraction, au même type que Spock en tant qu'alien pouvait être l'attraction. Mais de nos jours, si on regarde les séries modernes mettant en scène des équipages spatiaux, il y a généralement des personnages féminins qui sont rarement aussi nombreux que les personnages masculins. On garde cette idée que ça reste des trucs de pionniers et que qui dit pionnier dit principalement des hommes, mais on trouve quand même beaucoup plus de femmes que ça n'a été le cas à une époque. Et je pense que c'est une idée qui fait son bonhomme de chemin tout à fait dans la SF actuellement.
Laurent Whale, marine ou piraterie, combat ou commerce?
Marine ou
piraterie?
J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Parce qu'à partir du moment où on va envoyer des vaisseaux spatiaux d'une manière, on va dire, régulière, où ça ne deviendra plus de la science-fiction, ça deviendra le quotidien, on va forcément avoir des gens qui vont s'embusquer sur ces routes spatiales et qui vont essayer de faire leur beurre avec le beurre des autres, c'est clair. Donc moi je pense que la marine marchande, dans un premier temps, aura son rôle à jouer avant que... Mais là, on est très très loin. On présuppose que plein de planètes ont été colonisées, plein de galaxies, tous les mots se mélangent, galaxies, planètes, machin, systèmes solaires, tout ça. Et que donc on a plein de vaisseaux qui se promènent de droite et de gauche, ou d'autres moyens de transport. D'ailleurs, c'est pas forcément des vaisseaux, mais puisqu'on est dans le thème de vaisseaux, donc on aura plein de vaisseaux qui vont se balader. Donc forcément, à un moment donné, il y a des gens qui vont se dire, la camelote, au lieu de l'acheter, si j'allais la chercher directement. Donc là, forcément, on aura ça, comme on a eu à la grande époque de la piraterie sur la Terre, où, comme je vais citer un de mes livres, par pur modestie, dans les pilleurs d'armes, je fais venir...
Il enlève des pirates pour les envoyer dans l'espace.
Voilà, ouais. Donc je fais venir des gens qui sont d'une autre... D'ailleurs, c'est pas très précisé d'où ils viennent, on va dire, de très loin. C'est au-delà de Lyon, quoi. Ces gens-là, ils viennent sur Terre et ils viennent piquer des gens qui ont déjà une certaine compétence. Donc ils ont besoin de pirates parce qu'il faut savoir que les humains, dans mon futur, seront quand même vachement moins chers que les robots de combat. Donc c'est beaucoup mieux de prendre un humain et de le reconditionner un petit peu s'il a déjà l'entraînement de base, qui est vraiment un salopard de première, puisque c'est un flibustier ou un pirate, déjà sur la Terre, et on le met là-haut. Tout ce qu'on a eu à apprendre, c'est des rudiments de stratégie en trois dimensions, et puis comment piloter un vaisseau spatial, et voilà, c'est tout. Hop, on lui met des canons, et hop, voilà. Donc je pense que de toute façon, c'est une question technique après. Après, est-ce qu'on a des pirates, est-ce qu'on a des commerces, est-ce qu'on a du commerce? Le commerce est nécessaire au départ, parce que sans commerce, il n'y aura pas de pirates. Ça n'intéresse personne. Sinon, d'aller là-haut, se trimballer avec des canons, c'est super cher, c'est vachement dangereux, ça craint. Et en plus, on ne gagne rien. Donc ça, c'est bon, voilà. Donc il faudra qu'il y ait les deux. Et je pense que l'un se nourrit de l'autre, forcément.
Olivier Paquet, qu'est-ce qu'on mange sur un vaisseau? La nourriture synthétique ou de la nourriture hydroponique cultivée à bord? Qu'est-ce qu'on mange?
Ah, voilà, une bonne question. Moi, comme le métier est essentiellement un vaisseau université, c'est un bouffe de cantine. Mais comme il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de cantinière, ce sont les élèves qui se préparent à manger, mais en fait, ils ont juste appuyé un bouton pour du micro-ondes.
Space Cruise.
Voilà. Donc évidemment, ça sert, mais je voulais pas qu'il y ait justement que ce soit les élèves, une certaine autonomie des élèves qui soient obligés de faire eux aussi à manger d'une certaine manière. Après le reste, c'est effectivement c'est un gros problème sur les vaisseaux parce qu'on ne peut pas emporter tout. Mais c'est pas trop problématique chez moi parce que d'une part c'est un univers où on parlait du commerce et l'univers des Melkin, il n'y a pas d'argent. Donc on peut facilement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de piraterie, il n'y a rien à gagner, donc déjà ça rajoute. Et que en fait chaque planète étant associée à une culture, c'est-à-dire il y a des planètes indiennes ou des planètes austro-hongrois, etc. Donc sur chaque planète, il y a des nourritures différentes, des nourritures culturelles différentes, et donc chaque fois qu'on fait un arrêt, ben, on peut s'essayer à des spécialités locales. Parce qu'en fait, c'est ça qui, donc c'est un univers de diversité culturelle et que évidemment la nourriture standard n'existe pas puisque chacun apporte sa culture et ses nourritures. Et ça aussi dans les vaisseaux, c'est quelque chose qui est intéressant d'échanger à travers la nourriture et aussi une chose justement avec ces aspects culturels, c'est que c'est un monde avec des planètes différentes, des manières de manger différentes. Et je me souviens dans le roman, j'avais fait tout un dialogue justement de ces gens qui ont voyagé beaucoup dans l'espace et qui partagent. Alors nous, on partage des adresses, à Lyon, il y a un tel resto qui est super sympa, etc. Et là, les voyageurs de l'espace disent « Oh, ben, j'étais sur telle planète, ils faisaient une nourriture, c'était des bactéries sous une couche de pétrole, c'était absolument génial. » Et donc, ils peuvent s'échanger des adresses, mais sauf que, lieu que ce soit à la banlieue, ben, c'est sur une planète très loin, mais comme ils ont voyagé partout, et ben, ah oui, je sais où c'était, machin, et que s'échanger des recettes de nourriture, s'échanger des aspects de culture, et donc c'est encore plus vaste que simplement dans quel quartier on va manger. Et ça aussi, c'est intéressant avec le Space Hop, c'est que, ben, on a des biologies différentes, on a des planètes avec... Des situations différentes, des bactéries différentes, et donc les extraterrestres, dans mon univers, il n'y a pas vraiment d'extraterrestres, mais des bactéries où produisent des nourritures nouvelles, et ça aussi, ça peut créer du nouveau. On va découvrir autre chose, pas simplement des aspects culturels, et on va essayer de mélanger, par exemple, on peut imaginer le tandoori, imaginer avec des bactéries extraterrestres, et voir ce que ça fait, si ça fait des goûts différents. Ça aussi, c'est intéressant avec l'espace. On a ça qui intéresse. Donc, il faut inventer, quand on est auteur, ce genre de rencontre entre du classique et aussi des inventions liées à des planètes. Et on invente là-dessus aussi, c'est ça qui est assez intéressant. Si c'est le futur dans d'autres planètes et qu'on bouffe finalement les mêmes choses que chez nous, ben, c'est pas la peine de voyager. Le voyage, il est lié à des nouveautés et au fait que c'est de l'intérêt de choisir une autre planète.
Oui, Bruno, il marche à quoi ton moteur?
Secret de fabrication. Alors, le moteur, c'est une des rares parties du vaisseau que je ne prends pas trop la peine d'explorer, parce qu'effectivement, si on veut faire de la hard science, il faut éviter de dire des conneries, et j'ai beau avoir une formation d'ingénieur, je n'étais pas assez sûre de moi pour lancer des grands principes de propulsion ou d'ailleurs de distorsion, hein, puisqu'on est en supraluminique, des choses qui tiennent la route sans y passer 4 ans de recherche. Et puis même comme ça, j'étais capable de dire des bêtises plus grosses que moi et de me le faire reprocher, donc j'ai fait ce qu'on fait finalement assez souvent en science-fiction, du moins quand on n'a pas décidé de partir sur de la hard science et de se focaliser plutôt sur des interactions entre des personnages et des cultures, parce que c'était plutôt ça mon but. On va gentiment postuler qu'on dispose d'une technologie capable de fonctionner au-delà de la vitesse de la lumière, parce qu'effectivement, si on n'est pas capable de faire ça avant de quitter le système solaire, on en a pour un certain temps. Et si on veut envoyer nos joyeux personnages explorer l'espace un peu lointain, y a un moment où il faut aller au-delà des connaissances scientifiques actuelles et des possibilités technologiques actuelles. Je ne suis pas la seule à faire ça, je pense notamment à Thomas Géa avec ses livres dans le monde des chiffonneurs. À aucun moment il n'explique comment fonctionne un chiffonneur, il dit juste que c'est une technologie qui est capable de plier l'espace-temps de façon à faire sauter. Enfin, c'est un petit peu le même principe d'ailleurs que la distorsion dans Star Trek. D'avoir cette idée qu'on va plier l'espace-temps de façon à pouvoir aller d'un point A à un point B sans parcourir toute la distance. Et je suis un petit peu sur les mêmes idées, à savoir que je postule l'existence d'une technologie capable de le faire, mais je n'entre pas dans les détails parce que je n'ai pas la moindre idée des moyens qui seraient nécessaires de mettre en œuvre pour arriver à ce résultat. Après, le résultat, c'est qu'on a un vaisseau qui est capable de se déplacer à une vitesse dépassant celle de la lumière, et donc de se rendre à Proxima du Centaure en l'espace de quelques jours au lieu de quelques années, ce qui est quand même appréciable. Voilà.
Le Space Opera utilise beaucoup la comparaison entre l'espace et la mer. Laurent Genefort, le vocabulaire et le vernaculaire spécifique au Space Opera, c'est quoi et ça vient d'où?
J'ai pas du tout compris la question.
Merci.
Le vocabulaire vernaculaire ouais. Du Space Opera.
Bah oui, il y a la marine, hein, c'est clair. Hein, c'est, ça vient de là. Et puis même dans les vrais vaisseaux spatiaux, pas tout vaisseaux, c'est, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Maintenant, je rebondissais un petit peu par rapport à ce que tu disais sur les modes de propulsion. En fait, le mode de propulsion général pour ce qui est inférieur à la vitesse de la lumière, ça reste la réaction. Quel que soit la...
Ce qui change, c'est la... Enfin, ce qui change... J'ai plus de jus du tout.
Non, c'est peut-être...
Bon, vous m'entendez quand même ?
Oui, oui. Oui, le câble. À la
prise. Il y a peut-être... Voilà, c'est bon.
C'est bon ? Ce qui diffère, c'est la façon dont on se procure l'énergie de réaction. Donc ça peut être de l'antimatière, du carburant chimique, atomique, ce qu'on veut. Mais ça reste quand même, on projette de la matière et le vaisseau va dans l'autre sens. Ça reste quand même globalement le seul moyen qu'on connaisse et qui soit compatible avec les lois physiques actuelles.
Il y a le solaire.
La voile solaire.
Oui, voilà, mais donc c'est de la réaction. Ça peut être, oui, effectivement, on projette ou on se laisse projeter par par le vent solaire, mais ça reste de la réaction dans tous les cas. En fait. Donc, j'avais évacué le problème des longs transports, parce que je suis dans un univers réaliste, entre guillemets, avec des gros guillemets. Mais je savais quand même que la durée de vol, c'est vraiment un obstacle majeur si on veut rester réaliste, et que dès lors que on dépasse quelques semaines de voyage, ça devient extrêmement problématique. On est obligé de passer par des trucs de recyclage pour se nourrir, et pour respirer. Ça devient l'enfer. Le vaisseau ne sert plus qu'à ça. Qu'à être un support de vie.
Qu'il y a accélération, vitesse et décélération.
Voilà, il y a la décélération.
Le génie aussi pour attendre.
Il y a vraiment, oui, voilà. Mais donc, du coup, on est obligé de développer plein de technologies annexes. En plus, la cryogénie, si on veut rester réaliste, c'est très dangereux. Il faut imaginer un taux de perte quand même.
La vie, c'est dangereux.
Et, ouais. Et donc, du coup, j'avais chanté ce problème-là. Pour en utilisant des trous de verre statiques créés
artificiellement. Le système de saut est une technologie qui est couramment utilisée justement pour contourner ces problèmes-là.
Voilà, exactement. En fait, ça sert à éviter toute cette infrastructure extrêmement gourmande en ressources, en temps, etc. Donc voilà, en fait, là, j'avais utilisé quelque chose, donc une sorte de super science, pour éviter d'avoir à ce que les transports deviennent... presque la engloutisse toutes les ressources quasiment en fait. C'était vraiment un rapport énergétique pour que les civilisations puissent réellement se développer sans n'être que ça. Et du coup j'ai oublié ta...
Le langage. On va passer à une autre. Laurent, et le repos du spatio.
Lequel?
Où et quand est-ce qu'on baise?
Ah bah oui, c'est ça pouvait être toi.
Bon, dans le making, c'est très clair, c'est expliqué, il y a des planètes pour ça.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, la spécialisation des planètes est poussée quand même.
Alors, où et quand est-ce qu'on baise? Alors moi, en général, ça se passe pas tellement dans les vaisseaux, parce que les vaisseaux sont globalement qu'un moyen de transport pour excuser les rebondissements de l'histoire. Enfin, si on pense aux spécop pur et dur, par exemple, le champ du psychomorphe, bon, je ne devrais pas citer celui-ci, il n'est pas en vente aujourd'hui.
Mais c'est pas grave, il est
vachement sympa. Vous vous savez, de planète en planète, il y a des guerres galactiques, etc.
On baisse au fond des hangars, généralement.
Oui, oui, voilà. Merci de m'en rappeler.
Sinon, il y a les endroits spécialisés.
Oui, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Mais suivant les univers, en fait, il faut adapter ce truc-là, parce que c'est une fonction qui est globalement, dans un livre un petit peu épais, une fonction qui est aussi importante que manger, boire, être cryogénisé. Voilà, il faut avoir ça. Et on ne peut pas avoir que de la romance et de la regarder dans les yeux, et son regard bleu acide, couleur d'espace infini. Bon, voilà, ça va 5 minutes.
Mais, ou sinon, c'est publié chez Harlequin, ça peut faire un tabac. Hein.
Ouais, mais ils font pas beaucoup de SF chez Harlequin. J'ai tout noté.
Ils devraient,
ouais. Donc non, je pense que c'est absolument obligatoire d'en avoir, et pas que de la romance, comme tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi qui parlais de l'excuse d'avoir un personnage féminin pour la romance. Non, je m'excuse d'avoir un personnage féminin.
C'est pour la paix.
Non, à l'origine, il y avait des personnages féminins. Je pense qu'une grosse raison des personnages féminins, c'est que ça pouvait augmenter le côté chevaleresque du beau héros qui va la sauver, parce qu'à un moment donné, forcément, elle va être en danger, il va y avoir un énorme lézard cracheur de feu, et voilà, au détour d'un astéroïde, je ne sais quoi, et donc il va falloir aller la sauver, et en restant, il restera à peine assez d'air pour chanter une chanson de Pierre Perret, et il va s'élancer dans l'espace pour aller la chercher, il va la sauver des griffes du machin, et hop, il va revenir. Voilà. Donc là, elle sert à ça, mais à cette époque-là, les femmes dans la SF, elles étaient comme ça, elle servait à ça. On les baisait pas, on les regardait, on les vénérait, on machin.
On disait pas, on les baisait.
Voilà, on attendait que le livre soit fini.
Oui, oui,
il
oui,
écrit
oui,
son mot fin oui, qu'on puisse le faire.
Mais c'était même pas sous-entendu à l'époque. C'était même pas sous-entendu. Ça a commencé de devenir plus que sous-entendu dans les années 70, je pense. Donc ça a commencé vraiment. Il y en a eu des sévères. Et puis maintenant, c'est passé. Mais c'est comme dans toutes les littératures. Où et quand est-ce qu'on baise? Bah, c'est dans le plus d'endroits possible et à n'importe quel moment.
Quand on a 5 minutes.
Là, j'ai une question qui est un peu pour vous tous.
Ah, cool.
C'est quel space opéra le vôtre? Un space opéra à l'anglo-saxon ou non? Le space opéra à la française de la grande époque du fleuve noir?
Moi, j'ai commencé avec le space opéra de la grande époque du fleuve noir, à tel point que j'avais absolument aucune idée du monde de l'édition, et donc j'avais pris une trentaine de fleuves noirs dans ma collection, j'avais compté les pages, j'avais fait une moyenne, j'étais arrivé à 184 pages. Et donc, mon premier roman, je l'ai calibré, il fait 184 pages. Voilà. Parce que je pensais que dans le monde de l'édition, ils étaient intéressés par ça. En fait, c'est pas du tout ça, parce que ça sort jamais.
Ça a évolué,
ça sort pas, ça sort en grand format, mais après ça passe en poche, etc.
Ils n'ont jamais assez, il faut faire au moins 800 pages.
Dans l'état d'esprit, mon premier bouquin, il est clairement associé au...
Non, c'est pas tout va bien.
David Vincent, les amis, tout ça, ouais. Les sonneries de téléphone des auteurs de SF, ça vous est. Et donc je suis passé depuis à autre chose que ces trucs-là, mais je les renie pas, hein. c'est clairement fun. Quoi.
Alors, ma connaissance du space op, j'ai lu essentiellement des auteurs anglo-saxons, et puis j'ai eu une bonne partie de ma culture space op qui va être issue de la télé. Donc ça va être Star Trek, ça va être Babylon 5, ça va être Battlestar Galactica. Donc à la base, voilà, j'ai une base de connaissances qui est essentiellement anglo-saxonne. Voilà, la grande époque du fleuve noir, je connais assez peu, on va dire. Mais ce que j'aime écrire, de toute façon, c'est peut-être un peu autre. Moi, j'aime bien l'idée de prendre l'histoire américaine et puis de la faire à la française, c'est-à-dire, on va essayer de faire pareil, mais on a un dixième du budget et on se démerde. Et c'est comme ça que je me retrouve avec des personnages qui sont sur un vaisseau complètement brinque-ballant à essayer de le réparer avec des bouts de ficelle tout en voyageant. Et voilà, c'est le côté un petit peu, voilà, c'est l'ambiance PJ, vous voyez, au niveau budget.
PJ,
voilà, PJ dans l'espace. Et c'est ça que j'aime faire, j'aime bien essayer de me dire que je compose avec des contraintes matérielles et que les personnages se démerdent avec des bouts de ficelle, et c'est très rigolo.
Tu veux...
Oui, il a quelque chose à dire.
Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Voilà. Moi, j'ai deux sources finalement pour mon space op. Ce qui m'a motivé à l'origine pour écrire le making finalement, c'est
un truc, j'en ai parlé ce matin, notamment, mais je peux le dire, c'est Albator. C'est-à-dire, en fait, les séries, le space-op à la japonaise. Enfin, en fait, la science-fiction à la japonaise, avec cette idée de l'espace où tout est possible.
Et donc, très bon, Albator.
Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné et qui reste encore pour moi sur ces personnages. C'est pas le fait qu'ils soient pirates, c'est le fait qu'ils impriment à l'univers leur marque. C'est ça qui m'intéresse. Et l'autre aspect, l'autre source, c'est une science-fiction, un space-op anglo-saxon avec deux piliers qui sont d'une part l'aspect un peu anthropologique ou ethnologique à la Ursula Le Guin, donc penser à Ma gauche de la nuit, ce genre de choses, on va regarder des sociétés en fait. Et l'autre grande série space-op, c'est Ian Banks et le cycle de la culture, c'est-à-dire d'une société un peu utopique, notamment d'où le fait que j'ai créé une société où l'argent n'existe plus dans l'espace, où justement les valeurs sont des choses importantes, ce genre de choses. Donc voilà les trois éléments fondamentaux de mes thématiques en space opéra.
Alors moi, ma SF, elle penche plutôt vers l'art science, même si c'en est pas en réalité, parce que moi, ça sert plutôt l'immersion, plutôt que ce sont pas des je développe pas vraiment des vraies thématiques scientifiques. En revanche, disons, la science ou la technologie, elle est au service de l'immersion pour essayer de faire le plus réaliste possible. Ce qui est c'est une sorte de curseur esthétique qui va vers le réalisme. Sur les vaisseaux, moi j'avais été très impressionné par des auteurs post-cyberpunk de cette époque, comme Bruce Sterling avec la schismatrice, où il décrit des environnements de stations spatiales qui sont vraiment ultra réalistes, avec des hommes totalement déminéralisés qui ressemblent un peu à des grenouilles, simplement parce qu'ils n'ont plus d'ossature. Et ils vivent mais ils arrivent tout à fait, enfin ils se sont adaptés à l'espace tant bien que mal. Le côté sale, parce qu'en fait dans une station spatiale tout est sale, il faut lutter en permanence, c'est un environnement extrêmement confiné et réduit en termes de mètres cubes, ce qui fait que l'être humain produisant énormément de débris de peau et de
oui c'est bon.
Ouais,
et d'autres couleurs
voilà,
moins avouables.
Voilà, exactement. Donc du coup, c'est une espèce de lutte permanente contre la saleté. Faut voir dans les stations spatiales, c'est une lutte permanente. J'ai discuté avec un spationaute justement qui m'a raconté ça. Je veux dire, ils ont des lingettes pour tout. Le moindre geste est calculé pour éviter que une bribe de nourriture elle se colle quelque part. Enfin, tout. Voilà, c'est pas fun du tout. C'est pas fun du tout d'être dans l'espace, en réalité. Tous mes environnements spatiaux que j'ai développés, à l'intérieur, c'est ça. C'est-à-dire, à l'intérieur, j'essaie d'être réaliste sur ce que c'est que vivre en apesanteur. Puisqu'effectivement, comme tu disais, dès qu'il n'y a plus de poussée, dès que la réaction s'arrête, on est en apesanteur, on est en chute libre. Donc on arrive en apesanteur. Et donc il faut vivre avec ça. L'essentiel du voyage, il faut vivre avec ça. Et donc j'ai essayé de faire intérieurement quelque chose de réaliste. En revanche, sur l'extérieur, moi je suis très influencé par des illustrateurs de SF. L'illustration de SF, elle fait partie intégrante de la culture SF. Et voilà, c'est Chris Foss, c'est Tim White, c'est Manchu, c'est des illustrateurs qui font des vaisseaux d'un kilomètre de long, bardés de paraboles ou d'antennes ou de blindages et de choses comme ça, et ça fait des sortes d'œuvres d'art balancées dans l'espace comme ça. C'est
baroque.
Oui, voilà, exactement, des choses baroques. Et puis aussi, le vaisseau spatial, c'est aussi un tremplin à idées. Ça peut être aussi un moteur d'idées. Il y a le taux zéro de Poul Anderson, qui est un des plus beaux bouquins sur un vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial qui est condamné à accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière, qui va atteindre, et il va carrément sauter d'un univers dans un autre, puisque le bouquin a été écrit en 69, et donc on pensait à l'époque que c'était la théorie du Big Crunch, on pensait que l'univers allait ralentir et imploser entre guillemets et puis faire un nouveau Big Bang, et comme ça que l'univers était une succession de Big Bang avant que dans les années 90 on s'aperçoive qu'en réalité l'univers est appelé à s'étendre à l'infini. Mais son idée était vraiment géniale. Et là, il réorganise d'ailleurs l'intérêt du bouquin, c'est d'organiser la vie justement en couple. Enfin, vraiment, la vie quotidienne est très, très très bien traitée. Et puis aussi, au niveau le vaisseau comme idée, pour moi, un des bouquins les plus époustouflants que j'ai lu, c'est Le Temple du Passé de Stéphane Vull, où un vaisseau spatial s'écrase sur une planète aquatique, mais c'est une mer de méthane, et le vaisseau est naufragé sous cette mer de méthane et se fait avaler par un monstre marin. Et les survivants de l'équipage survivant n'arrive pas à s'extraire de ce monstre, et donc il est une sorte de grand Léviathan, et donc il va essayer en diffusant des substances chimiques de le faire muter de son vivant, de le transformer en salamandre pour qu'il lui pousse des pattes, etc. Et donc pour le faire évoluer de son vivant, puisque c'est un monstre qui vit des milliers d'années. Et ils vont réussir, ils vont réussir à le faire effectivement le faire muter, le faire sortir et le tuer après en l'empoisonnant. Enfin, c'est voilà. Donc on a une vie dans un. Enfin, il y a plein de. Le vaisseau, c'est aussi un moteur d'histoire. Il y a Julia Verlanger qui, pour elle, c'était simple. Pour elle, un vaisseau, c'était le machin qui permet d'aller d'un point A à un point B. Ça ne l'intéressait pas. C'était un cheval ou une diligence qui va d'un point A à un point B. La façon dont il le fait, la façon dont il se propulse et la façon dont ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était ce qui se passait sur les planètes. Voilà. Où on peut être dans la pure métaphore avec P.J. Hero, où les vaisseaux, ce sont des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. On peut être, ou Star Wars, c'est pareil, c'est des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Les X-Wing, on est dans cette simple réduplication, enfin dans cette simple transposition spatiale. Et voilà, je trouve que ça devient vraiment intéressant quand on s'abstrait et qu'on essaie de faire du nouveau, en fait. Il y a de quoi faire du nouveau avec ce thème-là, en fait.
Une autre question cruciale pour Ophélie Bruno. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Ou est-ce qu'on est comme dans un sous-marin où on ne voit éventuellement que sur un écran? Est-ce qu'il y a justement cette atmosphère confinée, presque claustrophobe?
Et j'en ai pas mis des fenêtres, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. Je suis partie du principe que ça induirait des fragilités trop importantes au niveau du vaisseau. Donc tout ce qu'on voit de l'extérieur est capté par caméra et rediffusé sur des grands écrans qui donnent l'illusion d'avoir des fenêtres. Le gros avantage de l'écran, notamment quand on est dans des contextes de combats spatiaux où, contrairement à ce qu'on pourrait croire, généralement l'ennemi n'est pas en vue, et bien c'est que l'écran, on peut zoomer, et donc on peut l'avoir en vue même s'il est beaucoup trop loin pour être vu à l'œil nu, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Il y a en revanche, pour combattre cette impression de confinement, des écrans un peu partout dans le vaisseau, et des écrans qui peuvent être très grands. Dans toutes les salles de repos, il y a des grands écrans. Évidemment, en salle de commande, j'utilise pas le terme passerelle. J'ai essayé de m'affranchir autant que possible des termes marins. Donc, en salle de commande, il y a plusieurs grands écrans. Et évidemment, on diffuse ce qu'on a besoin d'avoir en fonction. Vous imaginez la passerelle dans un Star Trek. On va revenir à des références à peu près connues de tous et iconographiquement bien présentes dans les esprits. Voilà, il y a plusieurs grands écrans et si on a besoin d'afficher le cap, on affiche le cap. Si on a besoin d'afficher son interlocuteur, on affiche son interlocuteur. Le capitaine a des écrans personnels en plus, sans parler évidemment des différentes consoles. Vous imaginez le truc. Oui, un maximum d'écrans parce que quand on est enfermé dans une boîte fût-elle grande. L'avantage d'être dans l'espace, c'est qu'on peut se permettre de construire grand, on n'est pas dans un sous-marin, on peut prendre un petit peu plus d'espace et éviter de se taper la tête à chaque fois qu'on passe une porte. Il y, y a quand même une impression de confinement qui peut intervenir assez rapidement. Moi qui suis un peu claustrophobe, je me suis imaginée à leur place. Et non, si on n'a pas l'impression d'avoir des grandes fenêtres, je pense qu'on peut vite virer dingue. Donc y a des grands écrans partout qui diffusent généralement ce qui est capté par des caméras dehors, sur lesquelles on peut également diffuser des films si on le souhaite. Il n'y a aucun problème pour ce genre de choses. Je pense que oui, il y a une notion d'évasion qui est assez importante, surtout quand on commence à passer du temps à bord, à passer du temps à manger des trucs recyclés et à respirer de l'air recyclé qui commence à être un peu confiné au bout d'un moment quand même. C'est un petit peu le principe qu'on peut voir dans les logements je pensais au fait que même les gens les plus pauvres ont une télé. C'est un peu ça l'idée. C'est histoire de pouvoir voir autre chose que sa petite boîte. Bon, même si, effectivement, je ne suis pas certaine qu'on y gagne quand on se branche sur TF1, mais voilà. Il n'y a pas TF1 dans les vaisseaux que je mets en scène, en tout cas.
Encore une question pour vous toutes, pour vous tous. Est-ce que vous allez à la rencontre de l'autre ou est-ce que vous préférez rester entre humains ?
J'aime bien l'autre, parce que l'autre, on y met ce qu'on veut et on peut l'utiliser comme miroir de nos propres travers ou de nos propres qualités d'ailleurs. L'autre est très bien comme métaphore, l'autre est souvent utilisé comme métaphore. Et c'est vrai que les interactions entre différentes espèces, c'est des choses qui me plaisent bien, enfin entre différentes cultures, donc là je matérialise par différentes espèces. Donc j'ai un équipage qui est composé d'humains parce que... il se trouve qu'il y a quand même une présence humaine importante avec des colonies terriennes qui sont implantées un peu partout. Mais ce sont des peuples qui sont en relation avec un certain nombre de peuples extraterrestres et qui peuvent y trouver leur compte ou pas. Donc je suis dans un monde où il y a des relations commerciales avec un certain nombre d'autres races, d'autres espèces, et où il y a des implications autres que commerciales, parfois, des choses qui peuvent être très personnelles, et qui peuvent coûter cher à certaines personnes qui ont eu le malheur de draguer la mauvaise personne au mauvais moment. Voilà, tant de monde et si peu de temps.
Je pense que c'est essentiel de toute façon à la science-fiction. Et une grosse fonction de la science-fiction, c'est justement qu'est-ce qui se passerait si on rencontrait d'autres espèces, d'autres races, qu'on les appelle comme on veut, qui aient deux bras, deux jambes et qui réfléchissent comme nous, même s'ils ont des écailles ou des ailes dans le dos ou je ne sais pas quoi, ou alors qu'ils soient complètement à l'état de bactéries ou qu'ils soient dans d'autres. Et ça, c'est super important parce que c'est une autre notion du voyage dans la SF. Il y a le voyage physique, on va de A à B avec un vaisseau spatial qui est des fenêtres ou qui n'en est pas, où on translate par des portes de banque, pour citer mon camarade à gauche là-bas, ou des trous de verre ou tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est une partie du voyage. Et l'autre partie du voyage, c'est, comme tu disais, d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre. Et l'autre, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut même être un concept. Ça peut être, moi, j'essaye aussi, dans le cadre de voyages comme ça, je fais aussi, il y a certains humains qui ne peuvent rencontrer d'autres espèces que s'ils ont eux-mêmes été transformés à la base. Donc si on l'aura, globalement, si on les a, transformés à moitié dans une forme d'alien pour qu'ils puissent communiquer avec eux sans soit les détruire, soit... c'est très très important d'avoir des races étrangères parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on a fait quand on a voyagé à partir du 15e siècle ou 16e siècle sur la Terre? La première chose qui nous est arrivée, c'est les mecs qui sont arrivés sur une côte et ils ont trouvé des hommes noirs. Et ça, c'est un petit peu comme si nous, on trouve maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la SF dans les années 60? Les mecs qui trouvaient des hommes verts. Voilà. Là, c'est un peu la même chose, quoi. Hein. Voilà, ils sont bleus, ils sont verts. Et on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est ce ce qu'on a cherché sur la Terre, c'est qu'on allait voir trouver des hommes morts, puis on allait les vendre, puis on allait leur piquer le bois, puis on allait leur piquer l'or, puis pour le truc, le machin, là. Et on transpose un petit peu tout ça dans l'espace, et donc on rencontre des races inconnues, on rencontre tout ça, et c'est l'interaction avec ces peuplades, avec tout ça, qui rend le voyage, l'autre voyage physique intéressant.
Du coup, ça marche plus.
Ouais.
Il y a un faux contact, mais on l'a déjà eu hier, ça, le problème. C'était le jack dans le micro, je l'ai connu hier.
Voilà. Ouais. Non.
Si,
c'est toujours ça.
C'est là que ça se trouve.
Oui, c'est là, mais.
Parle fort.
Je l'ai achevé.
Parle
bon, bah, va falloir
parler. On échange le micro.
Oui. Prenez plutôt celui-là.
Merci.
Alors moi, finalement, j'ai créé un univers où il n'y a qu'une seule race extraterrestre consciente, parce que le problème de l'autre, notamment en espèce de race, c'est que si c'est bien souvent les races extraterrestres inventées par les auteurs sont en fait des masques, c'est-à-dire que vous allez avoir des extraterrestres qui en fait sont des Asiatiques. C'est-à-dire qu'ils ont une pensée souvent assez bouddhiste ou proche de la nature, du style indien d'Amérique, ou etc. Donc en général, le problème, c'est si votre extraterrestre, c'est un indien sauf qu'il a des tentacules, en quoi est-il autre par rapport à un être humain? Donc c'est pour ça que dans mon univers, finalement, j'ai des planètes où les humains ont colonisé, où il n'y avait pas d'extraterrestres. On colonisait en créant des cultures locales. Pour donner un exemple, j'ai une planète qui est une steppe, et donc j'ai des peuples mongols, sauf qu'au lieu que ce soit les peuples qui soient nomades, ce sont les villes qui bougent, sur des pattes, et puis qui voyagent. Et en fait, par contre, j'ai créé une race d'extraterrestres qui est la seule race, c'est-à-dire que l'humanité a quitté la Terre avec des milliers de vaisseaux, et ils ont, à la fin de leur périple, ils ont été sur une planète où ils ont rencontré des extraterrestres. Et c'est sans doute les extraterrestres les plus décevants qu'on peut imaginer, parce que quand on débarque, en fait, ces extraterrestres, ils adoptent l'apparence de la personne que vous désirez. Et donc, c'est en fait, ces extraterrestres servent d'immenses lupanards, bordel, pour toute l'humanité, parce qu'ils vont s'adapter à avoir l'apparence de la personne que l'on désire. Mais sauf parce qu'en fait, leur seul langage est un peu particulier. Leur seul langage, c'est un langage qui est associé aux caresses. C'est-à-dire que leur seul moyen pour ces extraterrestres de communiquer avec d'autres espèces, c'est par le corps, par les caresses. Donc, ce genre de choses. Et alors, ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, on ne saura jamais, spoiler, on ne saura jamais quelle est leur apparence. C'est-à-dire que les humains arrivent sur cette planète, ils voient ces extraterrestres, qui leur servent ce qu'ils veulent, finalement, mais en même temps, ces extraterrestres restent une inconnue totale pour les humains. Toute la problématique de l'extraterrestre pour un auteur de science-fiction, c'est que pour qu'un extraterrestre soit vraiment inconnu, différent, autre, il doit être totalement incompréhensible. Sauf qu'on écrit pour des lecteurs qui sont humains, donc on est toujours dans une sorte d'ambiguïté à essayer de créer du différent, mais en même temps du compréhensible par le lecteur. Et c'est là toute la difficulté et l'enjeu de créer l'extraterrestre, le vrai autre. Le vrai autre, il a une pensée, une rationalité, il n'a pas du tout... on ne peut pas l'identifier à une culture humaine. Donc c'est ça un grand enjeu de l'extraterrestre qui est la grande difficulté du space opéra.
Alors je suis un peu plus optimiste que toi, en tout cas sur la SF récente. La SF récente, elle s'est quand même un peu affranchie du syndrome Avatar... grand chat bleu qui est l'ESF des années 50, effectivement. Mais le cinéma a toujours eu 50 ans de retard, donc c'est pas nouveau. En littérature, on trouve quand même des extraterrestres plus réalistes que ça et qui ont une autonomie, qui ont leur propre... qui permet d'interroger la notion de culture et de nature, d'ailleurs, et de faire vraiment quelque chose de qui soit réellement pas un simple trait grossi comme dans Star Trek, où on a des espèces qui sont des espèces de marchands, donc qui grossissent le trait de l'avidité humaine ou le trait de la rigueur morale humaine, etc., qui sont effectivement des aspects de l'humanité finalement qui sont mis en exergue. Moi, ce que j'avais, mais alors c'est, le, le
enfin, sur la question elle-même, c'est clair que c'est pas un hasard si la, si le récit de voyage scientifique de la fin du 19e et du début du 20e, c'est une des sources majeures de la SF, avec l'utopie, avec l'autre, mais à la base, pour moi, hein, d'ailleurs, pour moi, c'est surtout ça. C'est souvent d'abord des histoires de voyage, la SF, ouais, exactement. Donc, on est à la recherche de l'autre et on n'imagine pas, de toute façon, la SF n'a pas de fonction. Je ne pense pas qu'elle ait une fonction dévolue, mais si elle en avait une, ce serait de peupler l'espace, justement. Enfin, de peupler l'espace avec des espèces intelligentes et conscientes et aller les chercher et aller à la rencontre de l'autre. Je pense que c'est au cœur de la SF. Enfin, en tout cas, d'une certaine SF, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à l'espace extérieur, puisqu'il y a toute une SF de l'espace intérieur qui passe très loin d'ailleurs. Voilà. En ce qui me concerne, moi, ça a toujours été. J'ai toujours eu à cœur de faire un peu l'inverse, justement, des récits d'invasion, quand je parle d'extraterrestres. Pour moi, c'est jamais. Par exemple, Omal, pour moi, c'est une manière de mettre l'humanité, de relativiser l'humanité, de la traiter exactement sur le même plan que les autres espèces. C'était vraiment ça, la base de ma série, c'était ça. Et quand j'ai proposé le projet en 2000 à Gélu, à l'époque, le premier volume de la série, il ne devait pas y avoir d'humains du tout dedans. Les humains devaient être simplement une des espèces, mais... qu'on allait aller voir un peu plus loin dans le cycle. Et c'est la directrice de collection qui m'a dit « Voilà, tu vas effrayer tout le monde. » Et donc, du coup, j'ai réintroduit... j'ai réintroduit des personnages humains, et c'est principalement humain, mais j'ai quand même conservé cette idée-là, au moins dans le premier chapitre, où le premier personnage du cycle d'Omal, c'est un Rutkin, c'est un extraterrestre, qui voyage... D'ailleurs, il fait un voyage en train, une sorte de train, et qui va à la rencontre d'humains, en fait. Donc j'ai inversé les trucs habituels, en fait, qu'on va. Donc la SF, on a tout un pan de la SF qui est dans le relativisme écologique, où ça permet de décentrer l'humain aussi.
Nous avons presque plus de temps, donc... Je vais vous proposer de poser des questions que vous avez éventuellement.
Non, poser des questions. Oui. Avec un peu de chance, il ne marchera pas. Donc.
J'espère. Ça va peut-être demander une petite réflexion... une petite imagination incongrue.
Cette imagination.
C'est que quand je suis payé.
Oui, et ça va vous coûter très cher. Oui.
Désolé. Voilà, je crois qu'on a bien fait le lien entre le space opéra et le monde finalement maritime.
Oui.
Je voulais savoir finalement qu'est-ce qui change d'une histoire qui se passe dans l'espace par rapport à une histoire qui se passerait sur une seule planète. Avec un océan qui sépare juste certains territoires qui sont plus ou moins abordables, avec un vaisseau, une nef qui.
Oui, oui.
Qui ouais, je pense qu'on en a répondu en partie sur la fin, mais
il n'y a-t-il pas autre chose ? Il y a déjà un détail supplémentaire, c'est les étoiles.
J'ai envie de répondre.
Les étoiles, s'il vous plaît. Enfin, les étoiles, ça marche aussi dans ce genre de.
Oui, non, on est bien d'accord qu'on voyage, qu'on aille voir, je parlais d'Afrique ou de gens de couleur tout à l'heure, mais qu'on fasse ça, qu'on est aussi dépaysé quand on est arrivé et qu'on a trouvé des gens que Cortés, pas Cortés, mais avant lui, celui qui est sur les médailles, Saint-Christophe Colomb, voilà. Quand il est arrivé de l'autre côté, il a été aussi dépaysé, le mec, quoi. Il est arrivé, il aurait trouvé des types verts avec des écailles, c'était pareil. C'était pas plus, parce que de toute façon, il avait son concept, qui étaient les créatures de Dieu, elles sont blanches, déjà, hein. Et puis elles possèdent la terre. Et donc il arrive là-bas et on tombe sur des mecs qui possèdent là où ils sont quand même, quoi. Hein. Et c'est exactement le même dépaysement que maintenant on voit plus loin. Avant on n'avait pas de téléphone portable, maintenant on a un téléphone portable. Je peux téléphoner n'importe où dans le monde avec un machin qui est gros comme ça dans ma poche. Voilà. Dans les années années 50, il fallait une salle de communication avec 14 techniciens pour arriver à faire le même résultat, et en attendant moins. Voilà. Et donc le voyage, il est tout à fait de l'autre côté de la porte. Il est de l'autre côté de la porte. C'est, je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, alors, contrairement à ce que tu disais, pardon, je m'inscris en flou, pardon. Effectivement, on a les étoiles, voilà. Mais qu'est-ce que les étoiles, si ce n'est la cité inconnue du Machu Picchu dans la jungle, ou d'autres endroits comme ça, quoi. De toute façon, le voyage, tout est relatif. Le voyage, la distance, elle est relative. Maintenant, on va dans des galaxies, parce qu'on peut se dire que, éventuellement, l'homme va pouvoir y aller à un moment donné ou à un autre. Parce qu'on est déjà allé dans la Lune, on a envoyé des trucs qui galopent sur Mars, à un moment donné, peut-être qu'on ira, ou par robot interposé, peu importe, mais on ira filmer ce qui se passe là-bas. On est déjà allé partout dans le système solaire, mais c'est pas un voyage plus important, c'est beaucoup plus facile d'envoyer un machin se promener sur Saturne maintenant que ça ne l'était à l'époque de Christophe Colomb de traverser l'Atlantique sur des barques à 100 voiles. Donc l'aventure, elle était là, pareil pour eux, hein. Ils rencontraient, ils passaient sur cet espace qui était l'océan Atlantique où il y avait des monstres marins, ils ne savaient pas, il n'y avait qu'à voir les cartes de l'époque, quoi. Ils dessinent des trucs complètement improbables, des baleines avec des dents longues comme ça, enfin bon, c'est, voilà. Et ils imaginent un tas de créatures fantastiques qui leur font leur truc. Ils meublent le trou avec quelque chose qu'ils puissent comprendre entre eux. Mais le voyage, c'est pareil. On est que l'espace ou la mer, c'est pareil.
Bon, alors, on commence à dépasser notre temps de parole, en fait. Donc,
Comme je suis un Laurent aussi, en fait, ils ont divisé par deux.
Oui.
Moitié Laurent 1, moitié Laurent 2. C'est normal. Non, mais l'appel de l'inconnu, c'est le même. Je pense que c'est surtout le même appel vers l'inconnu. Maintenant, c'est clair que dans le space opéra par rapport au récit classique, et encore, effectivement, tu t'évoquais finalement le bestiaire médiéval, c'est tout à fait SF dans l'idée de réinterpréter et de mythifier quelque chose d'inconnu. Quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière la colline, on va inventer des trucs aussi. Ben là, c'est ce que fait un peu l'auteur de SF.
Et c'est ce que ça change par rapport à la connaissance actuelle. Voilà. Le fait est que pour les navigateurs du 15e, 16e siècle, effectivement, la Terre, c'était l'inconnu. Le problème, c'est que pour nous, ça ne l'est plus. Et que si on devait mettre en scène un récit d'aventure, un récit de voyage, et ben on serait quand même plus ou moins obligé, si on ne veut pas écrire totalement de la fantaisie, ce qui est un autre genre, rappelons-le, même si c'est vachement bien réussi quand c'est bien écrit, on est obligé dans ces cas-là de s'en tenir à ce qu'on sait actuellement de la Terre. L'espace, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu, c'est la liberté, et on peut s'amuser à mettre les créatures qu'on a envie, les situations qu'on a envie de mettre. Et sachant que de toute façon, quoi qu'on mette en scène, il y aura forcément une résonance dans notre monde et dans notre tête, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi on l'aurait écrit déjà à l'origine.
Juste, c'est un petit point de détail. Il y a quand même une différence entre la mer et l'espace, c'est-à-dire que le voyage de l'espace, que l'on fasse des moteurs réalistes ou qu'on aille plus vite que la lumière, si on est un tant soit peu réaliste, c'est qu'il va y avoir une donnée supplémentaire qui va intervenir, c'est le temps. C'est-à-dire que si on va à la vitesse de la lumière, est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est-à-dire qu'on va voyager à la vitesse de la lumière, c'est le paradoxe des chevaux de Langevin, c'est-à-dire donc on va avoir le temps du vaisseau va être différent du temps de l'espace extérieur, c'est-à-dire le temps du lieu d'où on vient. Donc il y a ceux qui voyagent, c'est pour ça que ceux qui voyagent dans l'espace sont vraiment encore plus différents que des marins, puisqu'ils ont une temporalité différente. Donc là aussi, c'est une différence, et ça, que ce soit qu'on aille à la vitesse de la lumière ou plus vite, hein, ça c'est une gestion différente. Mais c'est ça la grande différence, à mon avis, entre ce qui est ancien dans la mer et ce qui peut être nouveau dans l'espace. C'est le temps. Le temps devient une donnée très particulière avec l'espace.
Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour répondre à toutes nos questions. Après que vous ayez signé l'un des murs de cette salle avec les feutres qui sont là, les auteurs pourront vous signer leur roman. Alors, Ophélie Bruno est là avec pour quelques gigahertz de plus et l'Ouroboros d'argent en attendant la future publication de La fille des deux rives. Olivier Paquet est là avec la trilogie du Melkin, bleu-argent qui s'attache au même monde, et vous devrez être patient pour retrouver Structura Maxima qui va ressortir. Laurent Genefort a sa série Domal, Point chaud, les opéras de l'espace. Et Laurent Will est là avec les Pilleurs d'âme, les Étoiles en balance, les années de l'asphalte et Goodbye Billy en attendant la parution en mai du manuscrit Robinson.